BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Raphaël Coudert, Good Evening Business.
Bonsoir à tous, presque 18h sur BFM Business. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 19h et en direct, c'est l'heure de Good Evening Business. Et à la une, ce soir, cette chute vertigineuse des marchés financiers mondiaux, du Nikkei au Japon jusqu'à Wall Street en ce moment même, en passant par le CAC 40. Les investisseurs voient rouge, inquiets d'une possible récession aux États-Unis. On décrypte tout cela dans quelques instants avec nos experts et nos invités. Dans l'actualité également ce soir, la campagne américaine qui s'apprête à prendre un nouveau tournant. On attend d'ici quelques heures l'annonce par Kamala Harris de son colistier qui, pour l'accompagner dans cette campagne qui devient de plus en plus violente face à Donald Trump, on recevra tout à l'heure Alexis Buisson, journaliste spécialiste des États-Unis et auteur notamment d'une biographie de Kamala Harris. Et puis on parlera aussi des Jeux Olympiques ce soir. Comment la tech peut aider nos athlètes à gagner des médailles? De nombreuses start-up permettent aux sportifs d'optimiser leur performance. L'une d'entre elles sera avec nous à partir de 18h40. Voilà le programme. On est donc ensemble jusqu'à 19h et on commence tout de suite avec le journal.
Good Evening Business, le journal.
Les marchés voient rouge aujourd'hui sur fond de crainte des investisseurs d'une récession aux États-Unis. Les indices chutent lourdement depuis ce matin. Le CAC 40 et Wall Street sont en grande difficulté et la tendance est la même un peu partout dans le monde entier. Ça a commencé très tôt, Timothée Marouzet, ce matin, avec un krach historique à la bourse de Tokyo.
Oui, tout à fait, on peut le dire. Cette bourse de Tokyo donc a connu aujourd'hui l'une des pires séances de son histoire. L'indice Nikkei, qui avait déjà dévissé de 5,8% vendredi, s'est effondré de 12,4%, sa pire journée depuis le lundi noir de 1987. Idem pour les bourses de Séoul et de Taïwan. Comme une traînée de poudre, la bourse de Paris ce matin chutait de près de 3% et touche ce soir à la clôture son plus bas niveau depuis novembre à près de 7149 points. Les principaux indices boursiers européens suivent eux la même tendance. Ce soir, le DAX lui plonge de 1,82% à Francfort. Le FTSE 100 à Londres, lui, autour de moins 2,04%. Et puis, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le même schéma pour Wall Street. Le Dow Jones, lui, il chute effectivement ce soir, en tout cas à 18h, à 2,05%. Et le Nasdaq, quant à lui, toujours aux États-Unis, eh bien, il cède à 2,87%, plombé notamment par Nvidia et Apple. Et puis, l'indice de la peur, le VIX, s'est envolé dans la journée en atteignant les 60 points, retrouvant des plus hauts niveaux depuis mars 2020 au moment de l'épidémie de Covid, même si l'indice toutefois se calme en fin de journée autour des 35 points. Et enfin, la panique atteint également les cryptos. Le Bitcoin enregistre une baisse de 17% en seulement 24 heures, idem pour l'Ether avec moins 19%, Raphaël.
Impressionnant, merci pour tous ces chiffres, Timothée Marouzet. Étienne Brack, bonsoir, comment bonsoir. On explique une telle panique ces dernières heures?
Bah écoutez, ça commençait déjà dès vendredi avec une séance qui avait été compliquée à Wall Street avec des baisses de l'ordre de 3 à 4%. Souvenez-vous, l'emploi américain a été publié vendredi à 14h30 et cet emploi américain, il a montré un certain signal de ralentissement plus important que prévu avec un taux de chômage qui est remonté à 4,3%, soit un niveau qui n'avait pas été vu depuis octobre 2021. Ajouté à cela des craintes par rapport à un ralentissement de l'économie, alors que depuis le début de l'année, on voit que l'économie américaine est très solide. Suite à cela, le marché s'est dit, oulala, si l'Amérique va en récession, ça va être compliqué pour les entreprises puisque la situation en Europe est fragile. La situation en Chine se fait attendre. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que la pièce maîtresse de l'économie qui fait tourner les grosses entreprises cotées, c'est la zone Amérique du Nord. Et puis là, ce matin, c'était pas du tout attendu. Cette hausse de taux, pas une baisse de taux, mais cette hausse de taux au Japon, avec donc dans le sillage une bourse qui perd plus de 12% pour l'indice Nikkei. Alors néanmoins, un signal un petit peu optimiste ce soir, c'est que les indices européens limitent la casse. On vient de l'entendre, le CAC 40 perd 1,4%. Il perdait quand même quasiment 3% aujourd'hui en milieu de journée. À 15h30, tous les signaux étaient négatifs à Wall Street. Vous aviez un indice Nasdaq qui perdait plus de 6%. Là, il perd moins de 3%. Vous aviez Nvidia qui perdait 15% l'ouverture. Désormais, la valeur perd 5%. Il ne faut pas oublier qu'on est en plein cœur de l'été. Il n'y a pas grand monde sur les marchés. Et comme vous le voyez, il ne faut pas grand-chose pour afficher des mouvements à deux chiffres.
Merci beaucoup, Étienne Brack. Tout cela, on va y revenir revenir juste après ce journal avec notre invité Christian Parizeau, le président d'Altair Economics. Aux États-Unis, la campagne pour l'élection américaine sur le point d'accélérer dans les prochaines heures. Kamala Harris devrait annoncer le nom de son colistier, celui qui sera son vice-président si elle l'emporte en novembre. Un choix particulièrement stratégique pour convaincre les électeurs les plus indécis. Et ils sont de plus en plus nombreux, notamment dans la Silicon Valley, territoire pourtant historiquement acquis aux démocrates. Mais les patrons de la tech sont aujourd'hui de plus en plus divisés. Astrée Olivier, Caroline Morisseau.
Les relations ne sont plus au beau fixe entre les démocrates et les patrons de la tech, pourtant traditionnellement à gauche. Ils sont même de plus en plus nombreux à afficher publiquement leur soutien à Donald Trump. Dernier revirement en date, il y a quelques jours, dans un message très largement partagé sur les réseaux sociaux, David Marcus, ex-patron de PayPal et Messenger, a décidé de franchir le Rubicon et de se rallier à Trump. En cause, ses patrons n'ont pas du tout apprécié les tentatives de Joe Biden pour réguler l'IA, les crypto monnaie ou encore sa volonté de taxer davantage les ultra-riches. L'arrivée de Kamala Harris pourrait toutefois rebattre les cartes. Elle a été procureure en Californie et connaît très bien les acteurs de la tech. Elle est surtout perçue comme plus pro-business. Certains qui jusqu'ici avaient boudé la campagne de Joe Biden ont en tout cas salué son arrivée. Ron Conway, un investisseur influent, l'a assuré de son soutien infaillible. Reed Hastings, cofondateur de Netflix, a versé 7 millions de dollars pour soutenir sa campagne. Sentant peut-être le vent tourner, Trump a depuis multiplié les gages au patron de la tech en promettant notamment de mettre fin à la persécution contre les crypto-monnaies.
Voilà, et la campagne américaine, on y revient aussi dans une dizaine de minutes après ce journal avec un spécialiste, le journaliste Alexis Buisson, auteur d'une biographie de Kamala Harris. Toujours aux États-Unis, une méga fusion en vue dans le secteur de l'alimentaire. Le géant Mars étudie la possibilité de racheter Kellanova, autre géant du snack, propriétaire notamment de Pringles. C'est ce qu'indique l'agence Reuters dans un rapport aujourd'hui. Les deux groupes se refusent pour l'heure à tout commentaire. Il s'agirait, si cela se produit, de l'une des plus importantes opérations de l'histoire de l'agroalimentaire mondial, Kellanova étant valorisé 22 milliards de dollars. Un nouvel investissement chinois en Asie du Sud-Est. C'est aujourd'hui que se déroule la cérémonie de pose de la première pierre du canal Funan Techo au Cambodge, canal qui va relier le Mékong au golfe de Thaïlande. Un projet dont le coût est estimé à 1,7 milliard de dollars, et la présence de capital chinois dans le financement de cette infrastructure interroge particulièrement Mathilde Chaminade.
Le canal de Funan Techo sera un nez pour respirer qui va créer des dizaines de milliers d'emplois, selon le Premier ministre cambodgien. Il doit redynamiser l'économie en permettant à des navires de rejoindre le golfe de Thaïlande sans passer par le Vietnam. Une route maritime utilisée aujourd'hui par environ 255 000 barques et navires commerciaux par jour. Venerith Cheng, analyste politique, expert du Cambodge.
C'est le grand projet, un projet national qui restera en héritage.
Mais des doutes persistent sur les retombées réelles du canal et sur son financement, car c'est un grand groupe public chinois qui payera pour une partie de l'infrastructure. Des inquiétudes aussi sur l'impact environnemental du canal ou sur l'indemnisation des personnes déplacées par le chantier. Malgré tout, Phnom Penh est déterminé à aller au bout.
Le gouvernement le fera, le complétera par tous les moyens, à tout prix. Ils doivent prouver quelque chose, prouver qu'ils apportent quelque chose de concret à la nation.
Les investissements chinois se multiplient au Cambodge. Le pays doit à Pékin sa première autoroute, mais aussi deux aéroports à plus d'un milliard d'euros chacun. L'Asie du Sud-Est est la région qui reçoit le plus d'investissements chinois. Ils ont encore augmenté de 27% en 2023. Une façon pour la Chine de resserrer son emprise sur la région.
En Europe, un premier aboutissement important pour le DSA, cette nouvelle législation européenne sur le numérique. TikTok s'engage ce lundi à retirer définitivement son programme qui récompense le visionnage de vidéos. Ce service, baptisé TikTok Lite, permettait aux utilisateurs du réseau social d'obtenir des cartes cadeaux en échange du visionnage de vidéos. Bruxelles avait ouvert une enquête au printemps dernier évoquant des risques graves pour la santé mentale des utilisateurs. Retour en France, où Société Générale annonce trois nouvelles cessions aujourd'hui, deux de ses filiales de banques privées, ainsi que sa banque de détail à Madagascar. La banque continue de dérouler sa feuille de route. Conformément à ce qu'il a promis, Slavomir Krupa, le patron se déleste ainsi de tout ce qui n'est plus considéré comme stratégique. Caroline Morisseau.
La Société Générale poursuit sa cure d'amaigrissement et elle vient encore de s'alléger d'un gros morceau. Deux filiales de banques privées vont être cédées à la banque suisse UBP pour près de 900 millions d'euros. Quant à la banque de Madagascar qui va être cédée à la BRED, le montant n'a pas été dévoilé, mais c'est la plus grosse banque du pays. Depuis des mois, la Société Générale enchaîne ainsi les cessions. Comme promis, elle s'est notamment désengagée de nombreux pays d'Afrique, Congo, Tchad, Bénin ou encore Maroc, autant d'activités qui ne sont plus considérées comme stratégiques. Pour la banque, l'objectif est clair, réduire les coûts, améliorer sa rentabilité et ainsi redorer son cours de bourse. Reste à convaincre les marchés. Si les résultats financiers qui viennent d'être publiés la semaine dernière étaient plutôt bons, la banque a une nouvelle fois déçu en révisant à la baisse l'un de ses objectifs dans la banque de détail. Dans une note récente, les analystes de Deutsche Bank soulignent qu'il faudra attendre fin 2025, voire 2026, avant que tout cela commence à porter ses fruits.
À l'inverse, L'Oréal, lui, se renforce dans les soins dermatologiques. Le leader des cosmétiques prend une participation de 10% dans le groupe suisse Galderma, l'équivalent d'un investissement d'1,7 milliard d'euros. Preuve que la dermatologie représente un marché de plus en plus porteur. Hélène Cornet.
Galderma se présente comme un pur player de la dermatologie, à la fois les soins de la peau, les injectables concurrents du Botox, mais aussi des traitements contre l'acné par exemple. 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier, 6500 salariés, 4 sites de production. La moitié des ventes se fait aux États-Unis. Depuis la fin du Covid, ces produits vendus en pharmacie, qui combinent beauté et soins, connaissent une vraie dynamique. L'Oréal le sait bien, parmi ces 4 divisions, c'est également celle qui affiche la plus forte croissance, plus 15% au premier semestre, avec ses marques La Roche-Posay, Vichy ou CeraVe. Ironie du sort, cette fois L'Oréal jette son dévolu sur une entreprise qu'il a lui-même créée il y a plus de 40 ans en partenariat avec Nestlé. Depuis, Galderma a fait un parcours sans faute jusqu'à son introduction à la Bourse de Zurich en mars dernier. Le Suisse est désormais valorisé plus de 17 milliards d'euros.
Dans le secteur de l'immobilier, les premiers signes timides de reprise se confirment sur la production de crédit. En juin, 8,6 milliards d'euros de prêts ont été accordés après 8,1 milliards en mai, selon la Banque de France. Cette légère embellie s'inscrit dans un contexte où les taux d'intérêt continuent de baisser. Ils ont plongé de 47 points de base depuis leur plus haut en janvier dernier. Les retombées des Jeux Olympiques sont pour l'instant plutôt positives, à la fois en termes d'image et en termes d'affluence. Ils sont aussi, ces Jeux, une vitrine de Paris pour les investisseurs internationaux. Lionel Grotteau, le directeur général de Choose Paris Region, était l'invité de Good Morning Business ce matin. Écoutez.
En tant qu'agence d'attractivité, nous avons fait venir
venir près de 500 personnes.
Absolument, absolument. Ouais. Voilà, donc certains étaient déjà présents à Paris et sont des dirigeants qui représentent des entreprises internationales, souvent plutôt au niveau Europe qu'au niveau France. Ces jeux, c'est effectivement cette grande fête populaire qu'on voit tous, mais c'est aussi l'occasion de montrer l'excellence de nos entreprises françaises, internationales. On a eu la chance d'en avoir certaines à la télé, mais effectivement, il y a tout l'envers du décor avec un certain nombre de solutions de mobilité durable, des solutions aussi de construction durable qu'on rappelle, qu'on met en avant et qui nous permettent de faire du networking et de faire du réseau avec ses dirigeants.
Des jeux qui entrent donc dans leur deuxième semaine et qui vont être certainement toujours très regardés par les Français, qu'ils soient en vacances ou bien encore sur leur lieu de travail. Et regarder les JO au boulot, ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour la vie en entreprise. Justine Vassagne.
La passion d'Aurel Diancourt, c'est le rugby à 7.
Je me mets le match au bureau et en fait en 15 minutes c'est plié. Donc là c'est chouette, c'est confortable. Pour les autres événements dont le format est plus long et plus indigeste, je me le mets comme un podcast. Là, j'ai juste le son et je vais vaquer à mes occupations professionnelles à côté jusqu'à la fin de l'événement.
Ouais. Aurel Diancourt est chargé de sécurité dans une ONG parisienne. Chaque matin, il prend le temps de regarder sur internet les épreuves phares du jour pour surtout ne rien rater. Théoriquement, les patrons ont le droit d'interdire de visionner les jeux et certains l'affirment d'ailleurs. Ils ne payent pas leurs employés pour regarder la télé. Ils ont cependant intérêt à utiliser la manière douce, selon Marie Pifferer, directrice management de l'observatoire The Bolzen Project.
Si un manager ou un dirigeant sent qu'il y a potentiellement un glissement vers des abus, l'objectif collectif de la période, pourquoi pas aussi donner du rythme, rajouter des points quotidiens, des points hebdomadaires si c'est nécessaire.
Les Jeux Olympiques à Paris, c'est une fois par siècle. Les managers n'ont aucun intérêt à priver leurs employés de cet événement exceptionnel. Abonde Benoît Serre, vice-président de la NDRH, c'est du management d'un ancien temps.
Si on les empêche de participer à la fête collective que constituent les JO, je suis pas sûr que ce soit un signe de management extrêmement intelligent et encore moins efficace. En revanche, si vous réussissez à en faire un moment où tout le monde doit être raisonnable et en même temps on peut pas ignorer que cet événement se passe en ce moment, je suis même certain qu'on y gagne en management, en esprit d'équipe.
Selon une étude d'Opinionway, plus d'un tiers des Français ont prévu de suivre les JO, coûte que coûte, au bureau.
Voilà pour ce sujet de Justine Vasseugne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité économique ce soir. Restez avec nous, on va revenir dans un instant sur cette chute des marchés mondiaux aujourd'hui et les conséquences que ça peut entraîner. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Raphaël Couder, Good Evening Business.
Les marchés financiers dans le rouge, la crainte d'une récession aux États-Unis fait paniquer les investisseurs. Ce lundi, le Nikkei au Japon a même enregistré la baisse la plus importante de son histoire, moins 12%. C'est très compliqué également pour le CAC, mais aussi à Wall Street. On en parle avec Christian Parizeau, président d'Altair Economics. Christian, bonsoir. Est-ce que cette panique est justifiée selon vous ?
Alors, justifié, pas sur le fond. Hein. On a pas. Alors, c'est vrai que les marchés ont peut-être changé de scénario économique. On était dans un scénario économique de ralentissement maîtrisé de l'économie américaine avec des baisses des taux. Donc, certes, c'était pas idéal pour les profits des entreprises, mais on se disait qu'on n'était pas en récession et que la baisse des taux allait favoriser la valorisation des marchés actions. Là, on est passé à un scénario peut-être avec une crainte. On réaugmente de nouveau une probabilité de récession. Mais est-ce que ça justifiait un tel mouvement, surtout sur les derniers chiffres de l'emploi ou les derniers l'ISM manufacturier, est-ce que ça justifiait une telle correction ? La réponse est clairement non. Je pense que ce qu'on assiste surtout là actuellement, c'est plutôt un débouclage de positions très spéculatives. Alors d'une part parce qu'on perçoit maintenant un petit risque de récession aux États-Unis, donc ça incite les investisseurs à protéger leur portefeuille. Et c'est vrai que la faiblesse de la volatilité sur les marchés, le fait qu'on ait alors l'indice, le fameux indice VIX qui soit si bas, indiquait que les investisseurs ne protégeaient pas leur portefeuille. Et donc, d'un seul coup, on a dû mettre en place des protections face à ce risque. Derrière, des acteurs sont obligés de couper leur position parce que derrière, quand il y a une hausse de la volatilité, beaucoup d'acteurs qui prennent des positions spéculatives voient le coût de leur position augmenter énormément. Donc, ils débouclent leur position. Et puis, on a eu aussi toutes ces opérations sur le yen. Hein. On a vu un mouvement extrêmement violent du yen face au dollar. Et ça a incité aussi beaucoup d'investisseurs à déboucler ce qu'on appelle les carry trades, hein, le fait qu'on empruntait en yens avec des taux d'intérêt très bas pour financer des positions à plus grand risque. Et donc là, on a une sorte de débouclage de pas mal de positions risquées. Donc ça explique en grande partie la réaction, voire la surréaction, tant sur la bourse japonaise, mais que sur l'ensemble des bourses. Et donc je pense que derrière cette baisse, il y a certes des inquiétudes, on peut toujours tout justifier par les fondamentaux économiques, mais il y a beaucoup, à mon avis, de débouclage et de réduction de prise de risque qui avait été prise au cours des derniers mois. Donc c'est plutôt un assainissement du marché, un marché qui montait un peu sans baisse, donc sans risque. Et donc là, on va avoir enfin un petit peu de choses qui vont un peu s'assainir sur les marchés.
Mais alors pour vous, ces mauvais chiffres de l'emploi américain qui sont tombés vendredi, ça ne peut pas réellement causer de dommages durables à l'économie américaine. Les États-Unis ne vont pas réellement entrer en récession ?
Alors, les chiffres n'étaient pas bons. Je ne vais pas vous dire non plus que tout va très bien aux États-Unis. Alors maintenant, je mets quand même un bémol parce que ces chiffres ont été quand même affectés par le passage d'une tempête qui a pu dégrader de manière excessive les chiffres du mois de juillet. Il faudra attendre au mois d'août pour avoir plus de confirmations. Mais globalement, on a l'image d'une économie américaine qui ralentit assez sévèrement, des entreprises qui recrutent beaucoup moins et donc un taux de chômage qui augmente, non pas sur des licenciements, mais par le fait qu'on a une population active qui continue une augmentée et qui n'arrive plus à trouver un emploi. Donc il y a quand même une dégradation du marché du travail. La situation aux États-Unis est quand même sur une image d'un ralentissement, mais pour l'instant il est difficile de voir véritablement un effondrement de la croissance. On est plutôt sur une croissance très molle aux États-Unis et qui devrait le rester tout au long du troisième trimestre. Alors Certes, il y a des incertitudes. Certes, peut-être on peut dire est-ce que la Fed n'a pas maintenu trop longtemps ses taux directeurs et peut-être que les marchés auraient espéré qu'elle baisse ses taux dès le mois de juillet parce que septembre peut paraître encore loin aux yeux des marchés. Mais pour l'instant, on peut pas dire que l'économie américaine se retourne violemment. Alors, ceci dit, ça va évoluer. On aura d'autres indicateurs. Les chiffres de l'emploi, hein, les inscriptions au chômage qu'on aura jeudi, ce sont devenus des indicateurs clés pour les marchés, pour notre analyse économique. Donc oui, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour conclure quand même à une récession de l'économie américaine et justifier une telle correction des marchés. Maintenant, encore une fois, c'est plus, à mon avis, un prétexte face aussi à d'autres éléments qui ont nettement renchéri le coût des positions spéculatives, qui expliquent en grande partie cette correction particulièrement violente sur ce début du mois d'août.
Christian Parizeau, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette règle de Sam, cette règle justement qui a fait craindre au marché aujourd'hui une récession aux États-Unis?
Oui, l'idée, c'est très clairement que cette récession soit liée finalement à une dégradation assez violente de l'activité, notamment des secteurs les plus sensibles au taux d'intérêt et les secteurs industriels notamment, qui sont souvent les secteurs qui donnent véritablement le signal des récessions aux États-Unis. Donc, ce qui a vraiment impacté les craintes, hein, c'est notamment les données d'enquête, hein, qui ont montré une dégradation assez forte de l'activité industrielle sur le mois de juillet. Et donc, face à ça, véritablement, il y a eu quand même des anticipations qui sont revenues très très vite de dégradation de l'économie. Alors, c'est vrai que l'industrie, les secteurs sensibles au taux d'intérêt, ce sont eux qui donnent généralement les signaux de récession. Et donc, ça explique pourquoi les marchés ont été aussi sensibles à quelques indicateurs qu'on a pu avoir ces derniers jours.
Christian Parizeau, les investisseurs ont en ligne de mire la prochaine décision de la Fed, la Banque centrale américaine, qui pourrait baisser ses taux potentiellement en septembre de façon plus importante que prévu au vu de la situation, peut-être même 50 points de base. Est-ce que vous y croyez, vous ?
Alors, au jour d'aujourd'hui, non, parce que il n'y a pas des indicateurs qui le justifient. Alors, c'est vrai que les marchés, c'est un peu autoréalisateur, parce qu'ils se disent, si la situation est grave sur les marchés, si derrière on a le S&P qui perd 30%, oui, la Fed pourrait peut-être être amenée à baisser beaucoup plus ses taux directeurs qu'anticipés. Mais d'un autre côté, elle peut pas non plus réagir immédiatement dès qu'il y a un risque qui se manifeste sur les marchés. Elle va surtout regarder l'économie. Alors, certes, Monsieur Powell a clairement indiqué, hein, que maintenant la Fed a rééquilibré ses objectifs entre l'aspect emploi et l'aspect inflation. Et donc maintenant, elle est beaucoup plus focalisée sur le fait que l'emploi est devenu un déterminant important de sa politique monétaire. Donc si éventuellement, effectivement, on a une dégradation du marché de l'emploi beaucoup plus sévère, alors effectivement, elle baissera ses taux de manière peut-être un petit peu plus agressive qu'on pouvait l'anticiper. Mais maintenant, sur un seul point, sur seulement les chiffres de juillet qui ont été en plus perturbés par les éléments climatiques, c'est quand même un petit peu tôt. Je pense qu'elle voudra déjà voir en début septembre comment évolue l'emploi sur le mois de décembre, sur le mois d'août. Et derrière, elle voudra avoir quand même quelques indicateurs. On a, encore une fois, hein, ce qu'il va falloir vraiment regarder dans les prochains jours, c'est ces inscriptions hebdomadaires au chômage. Si véritablement on a une explosion de ces inscriptions, oui, effectivement, la Fed réagira de manière un petit peu plus brutale. Mais attention, hein, c'est toujours à plus double tranchant quand vous auriez ce type de message, parce que ça veut dire aussi qu'elle avouera implicitement qu'elle aurait dû baisser ses taux beaucoup plus tôt, qu'elle a maintenu trop longtemps une politique monétaire restrictive et que si elle baisse de manière agressive, c'est que la situation est grave. Donc il faudra tout mettre, tout ça, reposer tout ça en début septembre pour voir un petit peu ce qu'il en est et est-ce que véritablement il y a un risque de récession aux États-Unis ou pas. Donc c'est encore un peu tôt. Bon, les marchés naturellement jouent ce mouvement, mais c'est quand même encore un petit peu tôt pour prendre une telle percée. La baisse de 25 points de base me semble acquise, mais les 50 points de base, ça signifierait que la situation est grave et on en est pas encore là, pas sur un seul point, pas sur une seule donnée économique. Il nous faudra encore pas mal d'autres données pour pouvoir conclure ça.
Merci beaucoup, Christian Parizeau, économiste, président d'Altair Economics, d'avoir été avec nous ce soir dans Good Evening Business et d'être revenu sur la baisse des marchés mondiaux aujourd'hui. Allez, on poursuit avec cet autre titre de l'actualité, la campagne américaine qui s'apprête à prendre une nouvelle tournure avec l'annonce imminente par Kamala Harris de son colistier, celui qui sera donc son vice-président si elle emporte l'élection présidentielle en novembre prochain. ça pourrait être dans les prochaines heures. Et on en parle avec Alexis Buisson, journaliste spécialiste des États-Unis, auteur de Kamala Harris, l'héritière, biographie de la candidate démocrate, et qui nous a rejoint en direct depuis New York. Bonsoir Alexis Buisson. Qui part favori pour accompagner Kamala Harris dans cette campagne ?
Alors c'est très difficile à dire à ce stade, il y a plusieurs noms qui circulent, mais il y a deux noms qui reviennent avec insistance à ce stade, c'est celui des gouverneurs du Minnesota, Tim Walz, et du gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, qui se sont entretenus donc avec Kamala Harris hier pour un dernier round en quelque sorte d'interview avant une annonce qui devrait effectivement arriver dès demain matin aux États-Unis sous la forme d'une vidéo. D'une vidéo qui révélera donc l'identité de ce colistier, et ce colistier s'affichera aux côtés de Kamala Harris dans la soirée lors d'un meeting commun à Philadelphie, en Pennsylvanie, qui est donc l'un des États swing states, l'un des États déterminants pour la présidentielle.
Alexis Buisson, à quel point le choix de ce vice-président est capital pour Kamala Harris ? C'est très propre à la démocratie américaine. On connaît beaucoup moins ça en France, mais ça peut effectivement tout changer d'un côté comme de l'autre dans la campagne.
Non, alors historiquement, le choix du colistier n'a pas un impact énorme. C'est un choix qui retient beaucoup l'attention des médias et du monde politique, mais les électeurs, dans les faits, votent avant tout pour le candidat principal, donc à la présidentielle. En revanche, c'est vrai que un mauvais choix de colistier peut avoir un impact vraiment à la marge. On l'a vu en 2008 avec la sélection de Sarah Palin par John McCain, Sarah Palin qui avait été vue comme pas préparée, incompétente, etc. Et ça avait vraiment créé une distraction, ça a détourné l'attention des médias de la campagne de John McCain. On peut dire peut-être un peu la même chose du colistier de Donald Trump, J.D. Vance, qui enchaîne les polémiques, tenu des propos désobligeants envers les femmes qui n'avaient pas d'enfants biologiques. Et donc en fait tout cela effectivement ça peut créer peut faire réfléchir certains électeurs qui hésitaient jusqu'à présent, qui disaient bon bah voilà, les démocrates, Trump, Kamala Harris, c'est la même chose, et donc voilà, ça peut effectivement faire convaincre quelques indécis. Et je le rappelle qu'aux États-Unis les élections présidentielles se jouent véritablement à quelques milliers de voix dans un nombre très limité d'États, et donc effectivement cet impact marginal peut pas être sous-estimé.
Est-ce que l'annonce de ce colistier peut amplifier la dynamique de la candidate démocrate qu'on voit ces derniers jours, depuis deux semaines? On voit qu'elle a effacé une bonne partie de son retard dans les sondages face à Donald Trump.
Je suis pas sûr que ça fasse une grande différence finalement, et surtout dans les sondages. Les sondages, il faut effectivement les prendre avec des pincettes, surtout des sondages au niveau national, puisque encore une fois, l'élection présidentielle se joue dans des États. C'est pas une élection nationale, c'est une élection qui se joue par État. En revanche, un bon choix de colistier peut mobiliser encore plus la base démocrate. Si ce colistier est vu comme étant un présidentiable possible, s'il est vu comme quelqu'un qui peut toucher des électeurs républicains centristes, par exemple, ou modérés, effectivement, on peut imaginer que ça continue à accompagner la bonne dynamique que connaît Kamala Harris depuis quelques semaines. En revanche, un mauvais choix de colistier, comme pourrait le voir la base, notamment quelqu'un comme Josh Shapiro, qui serait vu comme trop proche d'Israël, cela peut créer des dissensions entre la campagne de Kamala Harris et la base pro-palestinienne du Parti démocrate, qui s'est détournée de Joe Biden après l'attaque contre le Hamas. Donc ça peut effectivement avoir un impact, mais de manière générale, je dirais que ça sera un impact limité sur le long terme.
Quel va être le calendrier, la suite pour ce nouveau duo? Ils vont aller en campagne tous les deux dans les États clés?
Oui, tout à fait. Dès demain, donc avec ce premier meeting à Philadelphie, en Pennsylvanie, un état clé. Et puis ils vont enchaîner, ils vont faire le tour de ces swing states, comme on les appelle ici, pour parler aux électeurs, pour s'afficher l'un à côté de l'autre. Et ça sera effectivement une manière de présenter ce colistier. C'est une étape dans la campagne, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, les électeurs américains se baseront avant tout en novembre sur le ou la candidate principale.
Face à elle, Donald Trump cherche la parade et commence à s'inquiéter. Il commet des outrances, comme remettre en doute le fait que Kamala Harris soit noire. Il l'a qualifiée de stupide. Quel est l'objectif recherché avec cette stratégie, entraîner Kamala Harris dans son jeu ?
Oui, en quelque sorte, mais à mon avis, c'est surtout une manière de mobiliser encore plus sa base pour qui ce genre d'attaque est vraiment du pain béni. C'est quelque chose, ce genre d'attaque très personnelle sur l'identité ou sur même le nom ou le comportement, le rire hein, de Kamala Harris, c'est quelque chose auquel les électeurs de Donald Trump sont habitués puisque ce sont des reproches, des lignes d'attaque qui sont faites à Kamala Harris depuis des années hein, maintenant. Mais je dois aussi dire que ça aussi impacte de manière positive la mobilisation des démocrates. Ça arrange en quelque sorte le camp de Kamala Harris qui utilise, qui exploite ces lignes d'attaque pour montrer à quel point finalement les républicains sont devenus extrêmes et sont racistes, misogynes, etc. et qu'il ne faut pas voter pour eux.
Et est-ce que selon vous, on va assister dans les prochaines semaines à un débat télévisé entre les deux candidats ? Est-ce que c'est dans leur intérêt ? On voit que Donald Trump commence à poser ses conditions. Il voudrait que ce soit sur Fox News, en public. Bref, ça apparaît de plus en plus compliqué.
Oui, on dirait que ça paraît compliqué. C'est pas impossible. Je pense qu'effectivement, Donald Trump n'a pas forcément intérêt à débattre face à Kamala Harris. En revanche, moi, je suis pas convaincu que Kamala Harris ait tant avantage à le faire non plus, dans le sens où, dans les situations où elle doit improviser, dans les situations de débat, eh bien, elle n'est pas toujours très bonne. On se rappelle notamment d'un débat qu'elle avait fait en 2019, pendant les primaires démocrates pour la présidentielle, où elle avait été prise à partie par l'une de ses adversaires, qui l'avait attaqué sur son bilan de procureur. Et en fait, elle avait été complètement incapable de répondre à cette attaque. Elle avait paru complètement non préparée. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours un peu d'hésitation quand je dis que Kamala Harris va facilement briller en débat face à Donald Trump, parce que elle a aussi prouvé dans le passé qu'elle ne savait pas gérer des situations imprévisibles où elle était mise en cause.
Eh bien, on suivra ça dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Alexis Buisson, journaliste basé à New York, spécialiste des États-Unis, auteur de Merci. Kamala Harris, l'héritière, aux éditions de l'Archipel. Il est un peu plus de 18h30 sur BFM Business. On va faire un point sur les principaux titres de l'actualité.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, cette journée sanglante sur les marchés, sur fond de crainte des investisseurs d'une récession aux États-Unis. La bourse de Tokyo a vécu la pire séance de toute son histoire et a perdu 12,4%. C'est également difficile à Wall Street, où le Nasdaq et le Dow Jones perdent du terrain actuellement. Le CAC 40 a, lui, clôturé en baisse il y a quelques minutes de 1,4%. En France, L'Oréal se renforce dans les soins dermatologiques. Le leader des cosmétiques prend une participation de 10% dans le groupe suisse Galderma, un investissement d'1,7 milliard d'euros qui souligne l'intérêt de L'Oréal sur ce marché. Galderma est un spécialiste des soins de la peau, en particulier des injectables esthétiques, des produits concurrents du Botox. De son côté, Société Générale déroule sa feuille de route. La banque vient d'annoncer trois nouvelles cessions, deux de ses filiales de banque privée ainsi que sa banque de détail à Madagascar. Conformément à ce qu'il a promis, le patron de la banque, Slavomir Krupa, se déleste ainsi de tout ce qui n'est plus considéré comme stratégique. Dans le secteur immobilier, les premiers signes timides de reprise se confirment sur la production de crédits. En juin, 8,6 milliards d'euros de prêts ont été accordés, après 8,1 milliards en mai, selon la Banque de France. Cette légère embellie s'inscrit dans un contexte où les taux d'intérêt continuent de baisser. Ils ont plongé de 47 points de base depuis leur plus haut en janvier dernier, souligne la Banque de France. Une méga fusion en vue dans le secteur de l'alimentaire. Le géant Mars étudie la possibilité de racheter Kellanova, autre géant du snack, propriétaire notamment de Pringles. C'est ce qu'indique aujourd'hui l'agence Reuters dans un rapport. Les deux groupes se refusent pour l'heure à tout commentaire. Il s'agirait, si ça se produit, de l'une des plus importantes opérations de l'histoire de l'agroalimentaire, Kellanova étant valorisé 22 milliards de dollars. Un premier aboutissement important pour le DSA, la nouvelle législation européenne sur le numérique. numérique. TikTok s'engage ce lundi à retirer définitivement son programme qui récompense le visionnage de vidéos. Ce service baptisé TikTok Lite permettait aux utilisateurs du réseau social d'obtenir des cartes cadeaux en échange du visionnage de vidéos. Bruxelles avait ouvert une enquête au printemps dernier évoquant des risques graves pour la santé mentale des utilisateurs. 18h34, tout juste sur BFM Business. Voilà pour l'essentiel de l'actualité économique. Ne bougez pas, on revient dans un instant. On parlera d'intelligence artificielle et de comment la tech peut aider nos athlètes à gagner des médailles. À tout de suite.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Culturia tout de suite avec Anthony Morel. Et Anthony Morel va nous faire gagner du temps à l'aéroport avec cette intelligence artificielle qui accélère notamment le temps nécessaire pour les contrôles de sécurité. Résultat, on pourra bientôt arriver peut-être quelques minutes tout juste avant le décollage.
C'est l'un des gros points faibles du transport aérien. Il faut arriver une heure, deux heures, trois heures avant son vol pour les contrôles de sécurité, les contrôles d'identité. Eh bien, bientôt, tout ça sera peut-être bientôt fini ou en tout cas beaucoup moins compliqué grâce notamment à des scanners de nouvelle génération. Ils sont testés à Roissy, à Orly et un peu ailleurs dans le monde. Ce sont des scanners qui permettent de ne plus avoir à sortir quoi que ce soit de ses bagages. Vous savez, le fameux moment de la banette où il faut sortir son ordinateur portable, il faut sortir les liquides. Eh bien, on n'a plus besoin de faire ça. En fait, ces scanners vont utiliser une technologie qu'on appelle la tomodensitométrie, qui est utilisée depuis longtemps dans le domaine médical pour voir à l'intérieur du corps humain. Ben là, c'est pour voir à l'intérieur de la valise. Ce sont des rayons X qui vont prendre des centaines et des centaines d'images. On a ensuite une modélisation 3D qui utilise de l'intelligence artificielle et on va pouvoir voir de manière extrêmement précise que là se trouve un ordinateur portable ou que là se trouve un explosif, voire un explosif liquide. On va pouvoir détecter ça de manière extrêmement, extrêmement fine. Le gain de temps estimé par passager est de l'ordre de 30%, ce qui est énorme et ce qui va permettre d'améliorer la fluidité du trafic dans les aéroports. Alors il y a quand même toujours ce passage, vous savez, où il faut vider ses poches dans les portiques qui font bip bip, enlever les appareils métalliques. Et ça aussi, ça pourrait bientôt être terminé grâce à une autre technologie. Ça s'appelle le MM Imager. C'est une innovation française. Alors je vais le décrire pour ceux qui nous écoutent. En fait, ça ressemble à une grosse poubelle, une grosse borne qui est bardée de caméras. Il n'y a plus besoin de passer sous un portique. Et en fait, cette borne, elle va être capable de détecter de manière extrêmement fine, dans un rayon de 10 mètres, tout ce qu'on porte sur et sous ses vêtements. Ça peut être évidemment des objets métalliques, ça peut être une arme, y compris un couteau en céramique, des explosifs. Là encore, ça permet un gain de temps qui est absolument considérable. On pourrait utiliser ça dans les aéroports, mais aussi, par exemple, dans les centrales nucléaires, les ambassades, tous les lieux un peu sensibles. Autre moment où on perd du temps dans les aéroports, c'est le contrôle des passeports, évidemment. Alors là, ce qui va nous faire gagner du temps, c'est la biométrie. On a déjà le système Paraf qui fonctionne plutôt bien, un système de reconnaissance faciale, ces petites cabines qui combinent les passeports biométriques avec la reconnaissance du visage. Mais demain, on pourrait aller encore plus loin. Ce qui est testé, par exemple, à l'aéroport Saint-Exupéry de Lyon, c'est la reconnaissance faciale pour remplacer la carte d'embarquement. C'est-à-dire que la veille du départ, vous allez prendre en photo votre visage, prendre en photo votre carte d'identité et une fois arrivé à l'aéroport, c'est votre visage qui va vous servir de passeport d'une certaine manière. Vous n'avez plus besoin de vous identifier. Fini les files d'attente interminables. On peut imaginer, rêver d'un monde où l'on pourrait arriver quelques minutes seulement avant le décollage de son vol.
Derrière les 44 médailles des athlètes français, il y a bien évidemment du talent et des milliers d'heures d'entraînement, mais il y a aussi de la tech. De plus en plus de sportifs font appel à des outils technologiques de pointe pour améliorer leur performance. C'est ce dont on va parler ce soir avec Alexandre Bouquet, président de Nolio. Nolio, c'est une start-up qui permet de planifier et de suivre ces séances d'entraînement. Comment ça marche concrètement, Alexandre Bouquet ?
Bonsoir. Nolio, c'est une plateforme entre le coach et l'athlète. Et donc, très concrètement, on se place en tant qu'outil et le coach va transmettre les entraînements directement à l'athlète sur notre plateforme. Et l'athlète va pouvoir connecter tous les objets qui existent aujourd'hui, les Garmin, compteurs, etc.
Alors, plateforme déjà utilisée par de nombreux sportifs qui sont, pour certains, engagés sur ces Jeux Olympiques. Qui sont vos clients, par exemple ?
Alors nous, on travaille notamment avec les fédérations, donc la Fédération française d'aviron, de cyclisme, et d'athlétisme. Donc malheureusement, l'aviron cette année au jeu n'a pas eu de médaille. Mais là, voilà, cycliste, notamment cycliste sur piste qui a commencé aujourd'hui. Donc voilà, donc nous on est entre guillemets vraiment en amont, c'est-à-dire que le travail a déjà été fait pour nous puisque la plateforme permet vraiment aux coachs et aux athlètes de préparer, de s'entraîner, etc. Donc quand on arrive au jeu, ben voilà, généralement on s'est déjà entraîné.
Donc là, oui, le cyclisme sur piste qui a commencé il y a quelques minutes aujourd'hui, ça veut dire que si on remporte une médaille en cyclisme sur piste, ce sera un peu grâce à vous. Qu'est-ce que ça apporte concrètement à l'athlète d'utiliser une plateforme comme Nolio?
Ouais, alors ouais, c'est sûr que c'est nous, on n'aime pas dire que c'est grâce à nous. Alors on fait juste notre petite pierre à l'édifice. Nous, concrètement, ce qu'on apporte au coach et à l'athlète, c'est du confort et des outils en plus pour mieux voilà faire ses retours au coach, comprendre ses performances. Donc c'est vraiment un outil du quotidien. Il n'y a pas de révolution en soi. C'est des choses qui existaient déjà avec des carnets d'entraînement papier, des Excel, etc. Mais on vient vraiment juste fluidifier tout ça, faire gagner du temps, gagner aussi en charge mentale pour l'athlète en voilà, en ayant une appli connectée avec le coach, etc. Donc voilà, c'est vraiment du confort d'utilisation et des data en plus, mais les data, ça va être principalement le coach qui va les exploiter.
Et comment vous est venue l'idée de créer cette plateforme? Vous avez constaté que c'était quelque chose qui manquait, ça, pour les athlètes, parce que l'analyse des données, en soi, il y a beaucoup de montres, de bracelets, de capteurs connectés qui font ça aujourd'hui, même pour le grand public.
Ouais, bah clairement, bah nous en fait, c'est vraiment partie du fait aussi que nous on avait des montres connectées. En fait, moi je viens de l'athlétisme et mon associé vient du haut niveau en ski de fond. Et en fait, le problème qu'on avait, c'est qu'on avait des objets connectés et on avait nos coachs qui étaient encore sur les fichiers Excel et donc il n'y avait rien entre guillemets qui faisait le lien entre les deux. Et donc voilà, enfin, on en avait un peu marre en fait de recopier les données de notre montre connectée directement dans le fichier Excel du coach. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée. Et nous on était en école d'informatique à ce moment-là. Et étant passionné de sport, voilà, on s'est dit on se lance. Et puis petit à petit, c'est comme ça qu'est devenu Nolio.
Et aujourd'hui ça grandit. Le business model de Nolio, c'est donc principalement une place de marché où les coachs peuvent vendre en fait des programmes d'entraînement. Combien il y a de coachs et de sportifs qui sont aujourd'hui sur la plateforme?
Donc nous aujourd'hui on a à peu près 2500 coachs dans tous les sports d'endurance, donc cyclisme, triathlon, running, trail, etc. 2500 coachs et ça représente environ 30 à 40 000 athlètes. Et donc notre business model c'est trois choses, c'est les abonnements qu'on vend notamment aux coachs pour utiliser notre plateforme, la place de marché comme vous l'avez évoqué et également les fédérations qui vont travailler avec nous et qui ont potentiellement des projets spécifiques. C'est le cas par exemple qu'on a voilà avec l'aviron et le cyclisme. Ils viennent nous voir parce qu'ils veulent construire des choses en plus sur la plateforme. Donc, par exemple, avec le cyclisme, on leur construit une surcouche, entre guillemets, qui est disponible que pour les clubs FFC.
Et justement, le fait de travailler pour ces fédérations qui sont engagées sur ces Jeux Olympiques, ça vous apporte quoi? Ça représente quoi pour vous, ces Jeux Olympiques de Paris 2024? C'est une vitrine, en quelque sorte?
Nous, c'est une vitrine, c'est avant tout une fierté. On est français, voilà, nous, on est basé à Grenoble. On a créé nos lieux un petit peu dans notre garage. Nous, on n'a pas levé de fonds. On a vraiment tout fait, nous, entre guillemets. Aujourd'hui, on a une équipe de 10 personnes basée à Grenoble. Donc, c'est vraiment une fierté, comme je disais tout à l'heure, de faire notre petite pierre à l'édifice, de travailler avec ces fédérations. Et puis après, bien sûr, c'est clair que c'est une vitrine. Ça nous permet aussi voilà, de communiquer, de faire des choses qui parlent au grand public. Puisque voilà, forcément, les Jeux, c'est vraiment un moyen de mettre en lumière des sports ou potentiellement, par exemple, si on parle de l'aviron, voilà. C'est pas un sport très médiatique, mais pendant les Jeux, tous les projecteurs sont tournés sur toutes les disciplines. Donc voilà, c'est clair que c'est une vraie vitrine. Ouais.
Et ensuite, le prochain objectif, j'ai vu qu'après les Jeux, c'était d'aller bien au-delà. Vous voulez mettre tous les clubs de France sur votre plateforme?
Ouais, alors ça, nous, pour les clubs, on s'adosse vraiment aux fédérations. Donc pour le cyclisme, par exemple, effectivement, on a un projet là, qui va jusqu'aux Jeux de Los Angeles, donc déjà dans 4 ans, en 2028. Et l'objectif, en fait, c'est un objectif plus large. L'aviron, aujourd'hui, est venu nous voir il y a quelques années uniquement pour la performance, donc pour les athlètes de haut niveau. Là, pour le cyclisme, en fait, l'idée, c'est de faire vraiment, de prendre tout ça en amont et en fait de mettre des outils en place de détection, pour détecter des nouveaux talents et suivre potentiellement des athlètes. Et de se dire, on les amènera aux Jeux de Los Angeles et c'est grâce à Nolio peut-être qu'ils ont été repérés ou qu'ils ont été accompagnés plus tôt. Donc c'est vraiment un projet sur plus long terme, 2028 voire plus, L'idée, c'est que les talents de demain, par exemple en cyclisme et dans d'autres sports, soient décelés assez tôt et accompagnés sur notre plateforme. Très concrètement, par exemple, on a des athlètes aujourd'hui en cyclisme où à 16-17 ans, on ne sait pas trop où ils en étaient. Et c'est des choses où c'est, dans d'autres fédérations, c'est fait. Et donc, on a envie de savoir, en fait, tel athlète à 16-17 ans, il y a tel marqueur qui font que le prochain athlète à 16-17 ans qui a ces marqueurs-là, et bah, du coup, on pourra se dire, bah, ça ne veut pas dire qu'il va être le prochain champion olympique, mais en tout cas, il a les marqueurs qui font que, les mêmes marqueurs en tout cas que des champions olympiques précédents. Donc, c'est vraiment agréger de la data et pouvoir mieux détecter et accompagner les athlètes. Voilà, le nom du projet, c'est vraiment du club à l'équipe de France.
L'innovation au service des athlètes et au service de la détection des jeunes talents avec Alexandre Bouquet, président de la start-up Nolio. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Good Evening Business. On reste sur cette thématique du sport. On va parler de la marque On qui s'installe sur les Champs-Élysées. Cette marque suisse de vêtements de sport de plus en plus en vogue, notamment chez les amateurs de course à pied. On Running qui a ouvert son flagship sur les Champs-Élysées. Reportage d'Eva Jaco.
On ouvre son premier flagship en France. Il s'installe ici, en plein cœur de l'avenue. Il s'agit du plus grand magasin au monde qui s'étend sur 3 niveaux et c'est aussi la première étape dans leur dispositif pour les Jeux Olympiques. Stéphane Levian, bonjour. Alors, vous êtes le directeur des magasins On en France. Alors ici, on trouve vraiment toute la collection et ça, c'est une première.
Je vous confirme qu'on trouve toutes les catégories de la marque avec le tennis, le mouvement et l'ensemble de la gamme performance, training, outdoor et running, tout à fait.
Alors, vous avez lancé assez récemment la catégorie tennis, mais quelle est la catégorie qui marche le plus ?
Le running, la performance, encore une fois, c'est l'ADN de la marque On et c'est une catégorie qui représente entre 40 et 43% du chiffre d'affaires du magasin.
Alors, à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, vous avez un dispositif assez précis. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Nous sponsorisons l'équipe olympique de Suisse et au cours des événements sportifs de l'été, nous attendons une augmentation de trafic importante, absolument.
Et alors, vous allez ouvrir, là, dans quelques jours, ce qu'on appelle le On Labs. C'est quoi exactement ?
C'est pas un magasin, mais c'est vraiment un endroit d'expérience, on va dire, où nous allons accueillir des consommateurs, des invités, présenter des produits, des influenceurs et des innovations.
Mais ce n'est pas sur les Champs-Élysées.
Non, ce n'est pas sur les Champs-Élysées, c'est au cœur de Paris, proche de la place de la République.
Vous le disiez tout à l'heure, donc les attentes avec cet événement des Jeux Olympiques, c'est bien sûr un boost de visibilité. Mais en termes de business, vous vous attendez à quoi ?
À passer un cap, on va dire, à développer l'image de marque de On en France, à travers, encore une fois, cet événement sportif de l'été et le trafic qui est attendu.
Vous avez ouvert votre boutique, votre première boutique donc, à Saint-Germain-des-Prés l'année dernière, en automne 2023. Quels sont les retours sur cette boutique ? Est-ce que vous êtes satisfait ?
Nous sommes extrêmement satisfaits. Les résultats du magasin dépassent les attentes les plus optimistes et nous avons les consommateurs que nous attendions avec des consommateurs étrangers, les runners et les locaux de la rive gauche notamment.
On est disponible dans un réseau de distribution de 10 000 points de vente partout dans le monde. Vous avez quand même des magasins en propre. L'ambition d'ici à ces prochaines années, c'est quoi ? C'est d'ouvrir encore plus de magasins ?
Oui, tout à fait. L'ambition est élevée et l'objectif, c'est d'ouvrir entre 20 et 25 magasins par an dans le monde.
Ce magasin devrait permettre à la marque de passer un cap sur un marché porteur comme celui de la France. Ce point de vente devrait générer un chiffre d'affaires 5 fois supérieur à celui de Saint-Germain-des-Prés.
Voilà pour ce reportage d'Eva Jaco sur les Champs-Élysées. 18h49, vous êtes bien sur BFM Business. On va parler de Decathlon, c'est l'un des partenaires principaux de ces Jeux. Il a fourni notamment les tenues des 45 000 volontaires. Virginie Sainte-Rose, la directrice du partenariat Paris 2024 chez Decathlon, était ce matin dans Good Morning Business avec Stéphane Pedrazzi et elle revenait sur cette ferveur spectaculaire, notamment d'un point de vue quantitatif en nombre de fans autour de ces Jeux, mais aussi d'un point de vue commercial pour Decathlon. Bref, le bilan à mi-parcours de ces Jeux est plus que positif pour elle.
Il y a les planètes s'alignent pour cet événement. D'abord, une cérémonie d'ouverture qu'on avait prédit compliquée, etc. Il y a eu un peu de pluie, certes.
Un peu beaucoup,
mais moi, ça ne m'a pas dérangé parce qu'il y avait les volontaires qui tenaient nos parapluies Décathlon et qui étaient à l'antenne. Donc, ça ne m'a pas spécialement dérangé. Mais en l'occurrence, voilà, une très belle cérémonie. On enchaîne ensuite des médailles, une ferveur réelle, un engouement incroyable et une communauté réunion. Et c'est, le sport sert à ça, ces grands événements servent à ça.
Votre patronariat, c'est d'abord une énorme logistique. Vous avez été en charge de la conception, de la production et de la distribution des tenues des 45 000 volontaires.
Oui, oui, c'était... et on l'a pris en fait comme une grande fierté et un honneur. C'est vrai que souvent, les équipementiers s'intéressent au staff officiel, aux athlètes, et ils ont raison de le faire. Mais nous, on avait à cœur de se préoccuper surtout des volontaires qui ressemblent un peu, je trouve, à nos vendeurs Décathlon et vendeuses Décathlon, parce qu'ils adorent le sport, ils sont prêts à rendre service. C'est une population incroyable, tout simplement. Et on a mis beaucoup de cœur dans cette panoplie. On l'a conçue avec le comité d'organisation. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est la première fois qu'un équipementier fait toutes les étapes, y compris les étapes de la distribution.
Alors, tenues qui, semble-t-il, font des envieux, puisque certaines se revendent déjà à prix d'or sur les réseaux sociaux.
Oui, on a constaté ça. On est très sollicité. Moi-même, voilà, j'ai le téléphone parfois qui vibre pour me dire « Tu peux pas m'avoir un bob ?» Non, je ne peux pas avoir un bob.
Il se vend jusqu'à 200 euros sur les sites de vente aux enchères.
Oui, il y a quelques spéculateurs sur le sujet. C'est vrai que c'est très coloré. C'est à la fois... C'est un accessoire qu'on voit de loin, qui est unique aussi. C'est très important parce que finalement, ces bobs et ces maillots ont été découpés, enfin en tout cas tout le composant a été découpé de façon aléatoire pour éviter le déchet. Et du coup, ce sont des pièces uniques. Elles ne se ressemblent absolument pas. On a l'impression qu'elles se ressemblent, mais elles ne se ressemblent pas du tout.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être partenaire ?
On est rentré par le partenariat, par les volontaires. C'est vraiment ce qui nous animait. On était encore une fois très fiers de pouvoir travailler et être à leur côté. Et comme je le dis, c'est la première fois, y compris dans la distribution. D'habitude, c'est un espèce d'hangar anonyme. Là, on est à l'UFR STAPS qui forme les professeurs de sport à Paris. Et c'est là qu'on s'est installé, un lieu symbolique. Et c'est là qu'on les reçoit avec un petit lounge, avec un parcours très simple. Et déjà, le premier contact qu'ils ont avec nous est déjà sympathique.
En quoi est-ce que ça fait écho à la nouvelle identité visuelle du groupe ? Elle a changé il n'y a pas très longtemps.
C'est vrai, et c'est aussi une forte ouverture vers l'extérieur que Décathlon. C'est vrai, présent dans 70 pays. Et ce qui est intéressant ici, c'est de faire connaître Décathlon. Certes, en France, nous sommes suffisamment connus, je pense, et très, très appréciés, mais c'est aussi de rayonner un petit peu plus en Europe, où nous avons des magasins, mais également tout notre savoir-faire de concepteur. C'était important, et ça, on le voit avec cette panoplie, c'est de montrer que ce sont des produits sur lesquels nous réfléchissons longuement. Nous sommes un distributeur d'articles de sport, mais aussi un concepteur.
C'est une façon de montrer votre savoir-faire.
Exactement. Ces jeux, ça permet de lever le voile un tout petit peu plus sur ce que nous sommes, tout simplement.
Pour être partenaire officiel, il faut débourser entre 40 et 70 millions d'euros. Ça, c'est uniquement le droit d'utiliser l'image des Jeux Olympiques. Après, il faut activer ce partenariat pour être visible. Quel est le budget pour Décathlon ?
Alors, généralement, on ne parle pas... Alors, déjà, nous, on n'est pas... Ça dépend de la catégorie, c'est-à-dire que vous avez trois catégories, les tops, les premiums, et nous sommes partenaires officiels. Donc on se situe.
Ensuite, il y a les sponsors.
Et ensuite, il y a les supporters.
Voilà, les supporters.
Nous, on est dans cette catégorie de partenaires officiels et pas vraiment dans les montants que vous décrivez, puisque c'est plutôt les partenaires premium qui sont sur ce créneau-là. Oui, on a effectivement, là où vous avez raison, c'est qu'une fois que vous signez, rien n'est fait et qu'il faut activer le partenariat. Mais en tout cas, c'est moindre de ce que vous avez décrit là, puisque ça concerne plutôt les partenaires d'autres catégories.
Ouais, ce sont des fourchettes pour chaque catégorie.
Tout à fait.
Comment est-ce que vous capitalisez dans les magasins sur ce partenariat ?
D'abord, avec nos produits licences, on a deux contrats. On a un contrat de partenariat et un contrat de licence. Et c'est avec ce contrat de licence qu'on peut produire toute une gamme qui est en lien et qui célèbre les Jeux. Ils sont en magasin. On a aujourd'hui à peine le temps de les installer, et en particulier dans les magasins parisiens qu'il faut réachalander. Et du coup, on n'a pas le droit à des gros véhicules. On a une armée de petits véhicules légers pour achalander les magasins.
Est-ce que vous êtes fixé des objectifs en termes de retombées ? pour ce partenariat?
Oui, alors on s'est fixé surtout, je l'ai décrit tout à l'heure, on s'est fixé des objectifs d'image et de perception d'image, que ce soit en France, justement sur ce savoir-faire de concepteur et de notoriété plus forte à l'étranger. L'appui, je le disais, nous a aidés. Mais c'est vraiment ce qu'on vise. Et puis évidemment, du chiffre d'affaires avec les produits, mais ça, on sait faire, je dirais, on a l'habitude de le faire. Et la partie marketing image, elle est plus nouvelle en fait chez nous. Vous avez cité le lancement de la nouvelle plateforme de marque, donc tout ça, ce sont des nouveautés pour nous.
Vous parliez des produits sous licence, les tarifs chez Decathlon, mais aussi chez d'autres partenaires, ne sont pas les mêmes que dans les boutiques officielles. Ça a surpris beaucoup de touristes.
Alors oui, c'est pas forcément les mêmes. Nous, on reste dans des gammes accessibles. Ouais. C'est important pour nous. Les seuls produits qui sont un tout petit peu plus chers, ce sont les produits made in France, puisque forcément, en termes de production, c'est un peu plus onéreux. Mais sinon, on reste fidèle à ce qu'on est, c'est-à-dire des gammes accessibles et que tout le monde puisse en profiter.
Certaines enseignes qui ne sont pas partenaires officiels tentent malgré tout de surfer sur la vague, notamment l'un de vos concurrents. Comment vous réagissez? Vous vous dites ça fait partie du jeu ou est-ce que ça vous agace tout simplement?
Les deux. Les deux, non, c'est vrai que parfois, avec le travail qu'on a réalisé, les contrats et les contraintes aussi qui sont fortes quand vous êtes partenaire, hein, vous avez tout un tas de règles, ce qu'on appelle les guidelines olympiques, donc que vous devez respecter. Donc c'est vrai que voir certains qui arrivent sans avoir ces contraintes-là, en tout cas sans penser les avoir, c'est parfois mais effectivement ça fait partie du jeu. Et je crois que si nous on a une démarche, enfin chaque partenaire, hein, je parle de Decathlon mais des autres, si on a une démarche sincère et forte, avec des convictions fortes, ça fonctionne aussi.
Ouais. Vous serez candidat aux prochains Jeux Olympiques pour être partenaire?
C'est une bonne question, mais laissez-moi terminer ces jeux-là, parce qu'il faut qu'on réfléchisse aussi aux opportunités, certes, et ça va continuer. C'est sûr que chez Decathlon, ça va continuer, les partenariats, mais il faut d'abord qu'on prenne, nous, on est des débutants, on arrive, et je pense qu'on a aussi la chance des débutants, parce qu'on a fait ça avec beaucoup de conviction, mais essayons de voir ce que ça nous a apporté, là où on a été bon, là où on a été moins, et puis effectivement, envisager d'autres partenariats.
Un dernier mot, un chiffre en fait, 84 sponsors au total en France. Est-ce que c'est difficile d'être visible malgré tout quand il y a autant de partenaires sur un événement comme celui-ci, sachant qu'en plus vous n'êtes pas présent sous forme de publicité autour des terrains de sport? Ça, c'est interdit par le règlement olympique.
Tout à fait, c'est interdit. Après, nous, on a la chance d'avoir les volontaires et qui arborent notre marque, notre logo, et qui sont sur les sites de compétition. Nous ne pouvons être présents sur les sites de compétition qu'en tant qu'équipementier. Et c'est ça aussi qui fait la différence. Et en même temps, je trouve que le fait qu'on ne soit pas submergé par les logos, les partenaires, etc. Ben finalement, quand vous avez une action, quelle qu'elle soit, quel que soit le partenaire, si vous avez une action forte, elle se voit.
Virginie Sainte-Rose, directrice du partenariat Paris 2024 chez Decathlon. Voilà, c'est la fin de cette édition de Good Evening Business. Restez avec nous sur BFM Business. L'info éco continue toute la soirée. Et demain, vous retrouvez la matinale avec Stéphane Pedrazzi dès 7h du matin.
Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.